Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Nous sommes le vendredi 26 juin, allez, presque week-end. C'est parti pour le journal de la mi-journée. Antoine Samoyau, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Cette inquiétude sur les risques du paludisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ceci à quelques jours du début des Jeux du Pacifique. Vous entendrez le ministre des Sports René Temeharo qui a déjà réagi hier sur le sujet à l'Assemblée. Et puis nous poursuivrons avec les dernières nouvelles des recherches du navigateur Laurent Bourgnon, toujours disparu de Tuamotu. Je reçois ce midi Marie Bavi, la directrice de cabinet du haut-commissaire qui nous donnera les derniers éléments d'information sur ces recherches. Nous terminerons avec un deuxième invité ce midi qui viendra nous parler du programme des festivités du Hiva Veve. C'est lundi, je vous rappelle, à tout de suite.
Et on démarre avec cette inquiétude sur les risques de paludisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée à quelques jours du début des Jeux du Pacifique.
La semaine prochaine, nos 450 athlètes tahitiens s'envoleront pour Port Moresby pour y disputer les 15e Jeux du Pacifique. Mais à quelques jours du départ, le Fénois s'inquiète du signalement de cas de paludisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La question a d'ailleurs été directement posée au gouvernement hier à l'Assemblée. Alors plusieurs mesures d'information ont été prises par le comité organisateur local, mais la prévention de la maladie reste principalement à la charge des athlètes. Le ministre des Sports, René Temeharo, se veut rassurant. Selon lui, les précautions prises par l'organisation des Jeux assurent déjà une protection suffisante. Écoutez.
Nous avons sollicité auprès du comité organisateur des Jeux du Pacifique à savoir quelles sont donc les préconisations à leur niveau afin que nos athlètes seront dans de bonnes conditions et nous a rassuré clairement qu'ils ont donc mis en place des structures pour éradiquer donc les moustiques tout au long des trajets au niveau des terrains d'accueil des Jeux. Tout a été mis en place comme il faut et d'ailleurs les lits sont dotés des mosquitaires, donc tout ce qu'il faut pour que nos sportifs soient à l'abri justement de ce problème. Nous avons entrepris aussi au niveau du comité organisateur local d'informer donc de la situation, de donner des directives et aussi de donner des solutions justement pour qu'ils puissent être donc bien informés, qu'ils puissent aussi prendre des cachets en amont pour ce genre de piqûres de moustiques.
Mais je vous le disais, le problème vient de ce que les sportifs polynésiens devront eux-mêmes prendre en charge les mesures de prévention avant leur départ. En effet, le pays n'est absolument pas disposé à soutenir financièrement les athlètes. Il considère avoir déjà assez payé pour ces jeux.
C'est des cachets qui coûtent 1000 francs. Donc bon, en plus, chacun doit prendre ses responsabilités. Donc le pays a investi déjà près de 120 millions. Moi, je suis pas prêt à remettre encore de l'argent là-dedans, alors que chacun donc est bien informé de la situation. Donc il y a eu des préconisations en amont au niveau des Jeux, ici, l'information. Après, bon, chacun doit avoir son médecin éventuellement. S'il faut le faire, ben, je pense que chacun devra participer.
René Temeharo qui était interrogé hier par Vaïté Olaji Pambrin. Sachez que selon les prescriptions du docteur Bruno Cojan qui accompagnera la délégation tahitienne en Papouasie, le traitement préventif pour le paludisme est une antibiothérapie à base de cycline, un médicament qui doit être pris depuis la veille du départ jusqu'à 4 semaines après le retour. Radio 1 a également contacté l'épidémiologiste du bureau de veille sanitaire. Priscilla Bompard, elle recommande une protection de tous les instants dès l'arrivée en Papouasie, notamment par des sprays anti-moustiques. Le but étant d'éviter au maximum l'exposition au virus et à d'autres pathologies transmissibles telles que la dengue de type 3 ou encore le Ross River, un virus responsable de fièvre et d'atteinte articulaire.
Mais il faut bien le dire, le risque d'importer le paludisme en Polynésie est quasiment nul.
Effectivement, alors le bureau de veille sanitaire précise tout de même que si un athlète est infecté par un de ces virus, il est impératif qu'il se déclare auprès des autorités médicales et ceci dès son retour en Polynésie. Mais sur le risque d'une importation du paludisme au Fénois, l'épidémiologiste Priscilla Bompard affirme que le risque est infime, pour ne pas dire totalement nul, puisque le vecteur du paludisme n'est pas présent en Polynésie. En d'autres termes, nos moustiques, ceux qui nous piquent en Polynésie, ne peuvent pas véhiculer le paludisme.
Et on poursuit avec les dernières nouvelles des recherches du navigateur Laurent Bourgnon, toujours disparu au Tuamotu.
Et depuis mercredi, les secours s'organisent au large de l'atoll de Tohoe pour tenter de retrouver le navigateur suisse Laurent Bourgnon. Je vous rappelle que le skipper est porté disparu depuis une plongée en bouteille mercredi matin alors qu'il effectuait un charter sur son yacht avec des touristes. Alors je reçois ce midi la directrice de cabinet du haut-commissaire Marie Bavi.
Bonjour.
J'y arrive. Alors à l'heure actuelle, les recherches se poursuivent sur la zone uniquement avec les moyens nautiques, c'est-à-dire que l'hélicoptère Dauphin et le gardien ne participent plus aux recherches. Quelles sont les dernières nouvelles sur place?
Alors aujourd'hui, nous avons des embarcations qui sont, comme précédemment, dirigées par le MRCC. Les recherches réalisées ce matin n'ont rien donné, donc pas de nouvelles informations sur les zones qui ont été parcourues ce matin.
Des embarcations uniquement nautiques, oui, nautiques, c'est ça.
Tout à fait, uniquement des embarcations nautiques ce jour pour balayer une blande proche du platier et donc proche des terres pour pouvoir observer de très près la surface de l'eau dans cette zone.
La zone qui était quadrillée, c'est une zone de 20 km par 40 km. C'est toujours celle-ci ou est-ce qu'elle a été étendue?
Alors la zone de recherche a été au départ définie par le MRCC sur la base des données que nous avions, des données très précises en termes d'horaire de plongée, en termes de lieu de plongée et ensuite en termes de courantologie. Donc toutes les données ont été croisées pour définir une zone de recherche qui correspondait à une zone de dérive possible de Laurent Bourgnon. Cette zone a été au fil du temps élargie, toujours en tenant compte à la fois des courants, des conditions météorologiques et du vent. Et c'est l'ensemble de ces zones qui étaient quadrillées par les moyens aériens. Les moyens nautiques, aujourd'hui, se rapprochent de la terre et de la passe, c'est-à-dire la zone où il y a eu l'accident.
Alors, tout le platier de l'atoll également a été quadrillé par les moyens aériens?
Alors, tout l'atoll a été quadrillé, toutes les terres ont été quadrillées par les moyens aériens. C'est en particulier l'hélicoptère qui a fait ce travail, encore une fois, hier. Et le platier a également été survolé et il est à nouveau vu aujourd'hui par les moyens nautiques.
On le sait, il y avait des plongeurs également qui étaient sur place. Ils continuent leurs recherches, eux également, aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu de plongeurs ce matin. Il y en aura à nouveau soit cet après-midi, soit demain très probablement. Hier, la plongée qui a été réalisée dans la passe, c'est-à-dire à proximité de la zone des plongeurs, n'a pas donné d'éléments nouveaux malgré une très bonne visibilité, malgré une plongée qui a eu lieu jusqu'à près de 50 mètres avec une bonne visibilité. Attention cependant au risque de suraccident. On n'encourage pas à réaliser des plongées profondes qui entraîneraient de nouveaux accidents potentiellement.
Alors cette réduction des moyens de recherche aériens, est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui il y a peu d'espoir de retrouver un jour Laurent Bourgnon ?
À ce stade, vous savez, on travaille sur deux hypothèses. La première, la plus urgente, c'était l'hypothèse de la dérive d'une personne qui serait remontée à la surface. Ça, on a quadrillé une zone très élargie, plus de 4 fois hier, 2 fois déjà avant-hier, et on n'a retrouvé personne. Donc aujourd'hui, l'hypothèse de la personne qui aurait dérivé en surface est vraiment très très minime. Et donc on craint davantage un accident de plongée avec une personne qui serait restée au fond.
Alors ce matin, le frère de Laurent Bourgnon, le navigateur Yvan Bourgnon, est arrivé en Polynésie. Vous l'avez d'ailleurs rencontré. Lui, il fait partie, même si c'est un peu différent pour lui, des nombreuses personnes privées qui assurent également les recherches sur place. Le MRCC en avait parlé, notamment mercredi ou jeudi, lors de son point presse.
Alors, Laurent Bourgnon va participer Yvan Bourgnon va participer aux recherches. Il a déjà eu un contact en arrivant ce matin avec le chef du MRCC et à nouveau en fin d'après-midi. Donc il s'insère dans le dispositif de recherche dès que possible dès son arrivée à Fakarava.
Alors il y a une polémique qui est en train de naître sur les réseaux sociaux autour du déploiement de moyens pour retrouver Laurent Bourgnon. C'est évidemment un sentiment qui ressort de la surmédiatisation de cette disparition, s'agissant d'une personnalité mondialement connue. Mais pouvez-vous nous préciser si les moyens qui ont été mis en œuvre pour secourir Laurent Bourgnon sont les mêmes que ceux qui sont mis en place à chaque alerte pour une personne portée disparue en mer?
Dès qu'il y a une personne qui est portée disparue, les moyens mis en place sont adaptés à la zone, aux conditions météo et bien sûr non pas au nom de la personne ou à la personnalité. Donc là, les moyens aériens ont été développés sur une zone qui correspond à un risque lié à un accident de plongée autour de cet atoll et ce sont les mêmes qui sont développés par le MRCC, quelle que soit bien évidemment la personne à secourir.
Marie Bavy, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Fait divers à présent avec plusieurs grands excès de vitesse cette semaine à Tahiti.
Des délits qui ont pour la plupart été commis mardi dernier, le premier à 10h50 à Mataya. Les gendarmes de Papara ont contrôlé un homme de 24 ans qui roulait à 115 km/h au lieu de 60 au volant d'une berline BMW. Un excès de vitesse constaté à l'abord d'un virage qui plus est. Le jeune conducteur encourt donc une forte amende, une suspension de permis et la confiscation de sa voiture. Et puis le même jour à 19h40 sur la RDO, ce sont les gendarmes de la brigade motorisée qui ont contrôlé un motard à 180 km/h au niveau niveau de la bretelle de Pureille. Motard qui n'a été arrêté qu'au niveau du McDonald's de Punaoya. Il était au volant d'un R1 de 1000 cm3. Lui aussi encourt la confiscation de sa moto en plus de son amende et de sa suspension de permis. Enfin plus grave, quelques minutes plus tard, au même endroit et dans les mêmes conditions, les motards de la gendarmerie ont arrêté un conducteur qui roulait à plus de 130 km/h au volant d'une Peugeot, sauf que celui-ci était sous l'emprise de l'alcool avec près d'un gramme par litre de sang relevé. Son permis lui a été immédiatement retiré et son véhicule a été saisi. Il comparaîtra au tribunal le 6 août prochain.
Puis c'est ce qu'on appelle la loi des séries. On conclut avec les suites de l'affaire judiciaire de l'huissier de Montréal.
L'huissier de Lille-Sœur, Patrick Rey, avait été mis en examen en mars dernier pour abus de confiance aggravé et placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer. Il est soupçonné, je vous le rappelle, d'avoir détourné une partie de l'argent qu'un parent lui avait confié après la vente d'un terrain et d'avoir empoché plusieurs dizaines de millions de francs à son propre compte en abusant de la confiance de ce parent. Eh bien, sachez que Patrick Rey démissionne finalement de ses fonctions, une démission qui devrait prendre effet à compter de la fin du mois de juin.
Une pause dans ce journal, il est midi 11, on revient pour parler de l'anniversaire du premier essai nucléaire à Mururoa. Et puis on parlera des festivités du Huawei, et je vais y arriver, je patauge.
Radio 1, premier sur l'info.
Retour au journal, Antoine, et on reprend avec la commémoration du 49e anniversaire du premier essai nucléaire à Mururoa.
Aldebaran, c'est le nom de la première bombe atomique qui a été tirée le 2 juillet 1966 au-dessus de Mururoa. Cette année, l'association Mururoa Tatau va donc commémorer le 49e anniversaire de ce premier tir devant la stèle installée au bout de l'avenue Puvana. D'autres associations telles que Oparo Paruru Yarapa, le collectif Puihou, l'association 193 ou encore la Ligue internationale des femmes ont décidé de participer elles aussi à cette manifestation. Une initiative appréciée par Roland Aldam, le président de Mururoa Tatau. Écoutez-le au micro de Vaiteurari Pembrun.
Ça nous donne de l'espoir pour la suite du combat. Donc pour nous, l'important, c'est d'interpeller nos dirigeants parce que la recherche de la vérité est la chose la plus importante. C'est vrai que nous avons en face de nous un mur en béton qui est l'État. Mais si nous-mêmes, nous nous cachons derrière certains mensonges, on n'arrivera jamais à avancer. Nous avons aussi décidé que l'histoire de la bombe soit enseignée dans les écoles parce que les essais nucléaires ne font pas partie de notre histoire. C'est notre histoire. Il y a eu quand même 30 ans d'essais et on ne peut pas l'oublier. Et les conséquences, ça va durer encore des générations et des générations.
Et en avril dernier, lors de son 31e congrès triennal, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté a mis en place une résolution demandant à ce que soit levé le secret défense des archives de Mururoa. Tida Wapeu, présidente de la Ligue, compte bien mener cette résolution jusqu'à l'ONU. On l'écoute.
Une résolution qui demande à faire reconnaître les essais nucléaires en Polynésie comme un crime contre l'humanité. Nous rappelons dans cette résolution que les expérimentations ont eu des conséquences néfastes sur les populations mais aussi sur l'environnement. Nous rappelons aussi qu'il y a une certaine opacité autour des informations que nous demandons depuis tant d'années. C'est pour cela que nous disons que le fait nucléaire n'est pas seulement un fardeau du passé, il est également une bombe à retardement. C'est-à-dire que de récentes études ont entrouvert de terrifiantes perspectives sur les retombées des 30 ans d'expérimentation scientifique. C'est pour ça que la Ligue internationale des femmes présentera cette résolution également à l'ONU pour la mise en place d'une plateforme scientifique internationale sur l'évaluation des antécédents, mais également des risques présents et futurs.
Et sachez que l'an prochain, à l'occasion du 50e anniversaire de la bombe, une cinquantaine d'anciens militaires ayant travaillé à Mururoa seront également présents pour cette commémoration.
Et on termine avec le programme des festivités du Huawei, c'est lundi.
Le gouvernement l'a annoncé il n'y a que quelques semaines, il renouvelle cette année le défilé du Huawei. Celui-ci avait été quelque peu oublié ces dernières années avant de revenir l'an dernier avec le retour au pouvoir de Gaston Floss. Un programme un peu différent cette année, nous avons déjà eu le temps de l'annoncer et je reçois ce midi Leilani Loglin, chargée de projets culturels à la Maison de la Culture, pour connaître le programme de ces festivités. Leilani, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, c'est pour l'instant déjà, on peut dire, un succès. Combien de personnes exactement sont attendues, vous me le disiez tout à l'heure?
Alors, on attend 10 500 défilants. À côté de ça, nous avons bien sûr les gens qui viennent regarder le défilé et assister et profiter aux diverses animations que nous proposons gratuitement. Donc j'espère avoir 10 000 personnes en plus qui viendront. Donc on estime à 20 000 personnes ce jour-là à venir pour Vanaopa et sur les différents sites d'animation.
Alors, qui sont ces 10 500 défilants exactement?
Alors, ce sont majoritairement des associations, des groupements religieux, des fédérations sportives, des groupes de chant, de danse qui participent au Heavy Tahiti. Nous avons des écoles de danse, des mouvements associatifs qui priment l'environnement. Voilà, donc diverses délégations.
Le programme, ça commence à quelle heure? Ça va se passer comment exactement pendant cette journée de lundi?
Alors, le défilé va démarrer à 15h, avenue Puvanaupa, ou anciennement avenue Mbrua. Et
il démarre à quel endroit, à quel niveau?
Alors, en fait, c'est au niveau de du palais de justice et du haut-commissariat. Mmh. Voilà, c'est ce tronçon du rond-point de la présidence au rond-point de Tahiti Nui.
Très bien. 15h, le défilé.
Voilà.
Et par la suite?
Et par la suite, à 16h30, nous proposons des animations gratuites dans les jardins de l'autonomie, où nous aurons des maquillages artistiques, des bouées gonflables, des trampolines, des mascottes de Disney. Surtout à Ta, nous avons, pour ceux qui sont un peu plus sportifs, un zumbaton. Et enfin, à 19h, sur Toata, un concert gratuit avec 5 groupes polynésiens, des artistes tels que le groupe Code 98, Verua, Vevo, Nati Groove et Toaura. Et enfin, pour ceux qui veulent danser et découvrir la danse à deux, eh ben, ils se retrouvent à la place Vaillété avec le groupe phare, les Tubi Brothers.
Et voilà, vous aurez donc l'occasion de retrouver notre Aldo de Thierry FM sur scène ce lundi soir. Donc, on parle du coût souvent de ce Viva Veve. Vous, vous parlez de ce qui revient à l'économie locale.
Oui, parce qu'on parle, voilà, on dit toujours qu'un événement ça coûte cher, mais en même temps ça fait profiter aussi l'économie du pays, puisque comme je le disais, on a 10 500 défilants, mais voilà, ils achètent des t-shirts, donc ça fait participer bien entendu l'économie. Donc les textiles là, ils ont de quoi imprimer des tissus, des t-shirts. Nous avons aussi la collation, puisqu'on a 10 500 défilants, mais on offre un sandwich à toutes ces personnes-là. Donc là aussi, on fait participer l'économie. Et puis à côté de ça, on a différents prestataires sur cet événement, sonorisation, décoration, voilà.
Alors, on rappelle le coût quand même, c'est 20 millions de francs cette année, c'est ça, et c'est en baisse par rapport à l'année dernière?
Ben oui, parce que l'année dernière, c'était la 30e édition, donc c'était vraiment exceptionnel. En plus, on a eu un feu d'artifice qui a duré 45 minutes. Donc là, oui, on a revu à la baisse. Ça reste un anniversaire, mais voilà, on a revu le coût.
Justement, quelle est la principale différence avec les festivités de l'année dernière?
Alors, l'année dernière, le défilé, c'était sur le front de mer. Cette année, le port autonome a refait donc le front de mer, et donc du coup, les tribunes ne peuvent pas, ne s'y prêtent plus en tout cas. Et donc, on a décidé de le faire avenue Puvanaupa. Cependant, je pense qu'il y a un charme autour de cette avenue, puisque c'est très ombragé, et puis on n'aura pas trop de décorations à faire, parce que c'était une très belle avenue.
Et puis le ministre de la Culture l'avait annoncé, Herimona Mavatu Yahutapu, il voulait un Hiva Veve moins politisé. Vous en avez tenu compte justement dans l'organisation de ce défilé?
Oui, de toute façon, tous les partis politiques sont bien sûr invités à cette manifestation-là. Beaucoup disent oui que le Hiva Veve c'est un événement politique, c'est-à-dire que le 14 juillet c'est politique.
Bon, ben voilà, ça conclura cette journée.
Merci
beaucoup, Leilani Loglin, d'être venue répondre à nos questions ce
midi. C'est gentil de m'avoir reçue.